Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui dans votre magazine du midi avec Aline Claire, designer sonore et compositrice. Aline a mené un projet qui s'intitule Résonance Rocheuse et qui est en deux parties. D'un côté, une performance sonore et d'un autre, une série d'entretiens avec des géologues et des passionnés de roches. Un projet qui l'a amené à parcourir le territoire des Hautes-Alpes où nous sommes aujourd'hui pour capter les voix de celles et ceux qui peuvent vulgariser les connaissances géologiques, mais aussi pour capter les sons qui émanent des montagnes. Elle nous en dira plus juste après. Et donc à partir de ces entretiens, elle a réalisé une série de podcasts que nous diffuserons sur Fréquence Mistral Briançon chaque lundi à 18h et que vous pourrez retrouver en replay sur le site de Fréquence Mistral. Bonjour Aline.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Aline Claire ?
Eh bien oui, donc tu l'as introduit, designer sonore, compositrice, des fois je dis même artiste pluridisciplinaire ou technicienne son, tout dépend voilà, dans quel cadre je travaille. Alors peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que le design sonore ? Pour moi, et c'est ma définition, après chacun, chacune, voilà, le pense comme elle veut, mais le design sonore pour moi c'est concevoir, penser du son, donc créer du son, pour une application précise, particulière. Et ça peut être une application très vaste, un domaine d'application très large, aussi bien le domaine industriel que le domaine artistique. Et par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup faire, ça va être tout ce qui est créer du son, composer pour le spectacle vivant, la danse, le théâtre, le cirque, pour des installations sonores, pour de la radio, de la muséographie, ou aussi de la performance live comme pour Résonance Rocheuse où j'ai pu réaliser ce projet, cette performance aussi.
Et comment t'es arrivée au son ? Quel a été ton parcours ?
Eh bien, moi d'abord, j'ai fait le conservatoire en tant que violoncelliste, mais je voulais pas en faire mon métier en soi. Et puis après, j'ai étudié pas mal en tant que designer, en lycée en design, j'ai fait une classe appliquée design. Et puis ensuite, j'ai découvert qu'il y avait un master en design sonore à l'École d'art et design du Mans. Donc je suis allée faire une licence là-bas en design pour être sûre que l'école me plaisait et que le master convenait bien à ce que je recherchais. Et pour moi, je cherchais vraiment une formation qui pourrait à la fois rejoindre mes connaissances et mon appétence pour le design et ma pratique musicale, violoncelle plus ou moins expérimentale, variée, improvisée. Et ce master, il s'est avéré qu'il répondait très bien à ce que je cherchais. Donc j'ai fait ce master en design sonore et c'est pour ça que je m'appelle aussi, enfin que je me définis comme designer sonore.
Ouais, tu as cette formation. Et ensuite, tu t'es lancée dans des projets personnels.
Dans des projets personnels, professionnels, tout à fait, pour gagner sa vie.
Oui, je disais voilà. Personnel, professionnel, c'est vrai que c'est des milieux où ça... Enfin, en tout cas, à ton compte, en tant que toi, designer...
Oui, c'est toi. Ça, et puis aussi en tant que... Via l'indemnisation d'intermittent, enfin voilà.
D'accord. Et alors, ce projet, Résonance Rocheuse, et ce territoire, qu'est-ce qui t'a amené à ça ?
Eh bien, donc moi, je suis arrivée sur le territoire il y a maintenant 2 ans. Et ce qui m'intéressait, c'était de travailler en lien avec le territoire. Ça fait vraiment partie de ma pratique sonore et musicale. J'aime beaucoup aller enregistrer sur le terrain des sons que je viens utiliser dans mes créations sonores. Et donc là, j'ai été en lien avec la structure culturelle du Kira qui s'appelle Bienvenue là-haut, qui fait partie de la SSSQ, qui organisait un événement qui s'appelait Épilogue. Qui était donc en juin dernier à Château Kira, donc au château. Donc c'était en partenariat donc avec Bienvenue là-haut et le Château Kira. Et l'idée, c'était qu'il y ait eu un temps d'exposition là-bas au château et un temps performatif, enfin une journée inaugurale. Et donc je me suis donc imprégnée du territoire, réfléchie à qu'est-ce que je pouvais proposer dans ce contexte-là. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, le château, il est construit sur un verrou glaciaire, donc qui est un élément géologique intéressant. Il est construit donc en partie en pierre, donc on revient encore à la roche, et on est entouré de montagnes dans ce territoire. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec la géologie et la roche du territoire.
Donc c'est en étant déjà sur le territoire que ça t'a questionné.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et alors, comment tu as mené ce projet? Tu t'es dit, là, voilà, il y a quelque chose à faire sur la géologie, sur les roches. Et comment tu as pensé aller à la fois rencontrer des personnes qu'ils connaissaient, mais aussi aller enregistrer les sons des roches?
Eh bien, déjà, parce que déjà, je connaissais un outil qui est assez spécifique, qui s'appelle un géophone. Donc, il y a un micro qui permet d'enregistrer les sons qui émanent des roches. Et je me suis dit, donc avec tout ce questionnement autour de la roche, du verrou glaciaire, du château, je me suis dit, bon voilà, il y a quelque chose à faire avec la roche. Et puis moi, j'aime parler du territoire et de m'en imprégner et que ce soit une base pour créer. Donc j'ai commandé ce microphone, je l'ai reçu, puis voilà, je suis allée tester et parcourir le territoire pour capter des sons qui venaient du territoire propre. Et en parallèle, je me suis dit que ça serait chouette pour le temps d'exposition au château d'avoir une installation sonore qui parle en fait de qu'est-ce que c'est la roche. Quand on lève les yeux autour de nous, on voit tout le temps de la montagne. En fait, on ne sait pas trop sur quoi on marche, qu'est-ce qu'on voit, pourquoi telle couleur, pourquoi telle forme. Et je me suis dit que ça serait super intéressant d'aller chercher à en savoir un peu plus là-dessus.
Et donc, à partir de là, tu as décidé d'aller rencontrer des personnes. Et comment tu as réussi à les trouver et quel accueil tu as eu avec ce projet?
Eh bien oui, j'ai cherché à rencontrer donc, des géologues, géomorphologues ou des personnes qui travaillaient la roche. Donc par l'intermédiaire de Bienvenue là-haut, qui connaît bien le territoire parce qu'il travaille sur le territoire depuis très longtemps. Donc on m'a proposé de rencontrer Pierre Paolo Brena, qui est conservateur à la réserve naturelle nationale de Ristola-Monviso. Et donc j'ai eu un premier entretien avec lui qui était très intéressé pour justement partager ses connaissances sur la roche et sur en lien avec la réserve qui est son territoire de travail. Donc là on a fait une première excursion on va dire au sein de la réserve où il m'a parlé voilà, de la Taillante, du Monviso, des spécificités géologiques en lien avec ce lieu-là. Et puis de fil en aiguille voilà, on m'a renvoyé vers telle personne ou telle autre personne pour continuer à en savoir plus sur la roche.
Et tu enregistrais directement, tu faisais une prise en direct. Il n'y avait pas une première rencontre et ensuite un enregistrement?
Non, c'était sur le vif. C'était une façon de faire. Bon, y avait aussi la question du temps aussi qui est toujours imparti dans les projets de création. Des fois, on a un timing à respecter. Et donc là, j'allais sur site. Et moi, j'aime bien aussi aller sur site, enregistrer sur le vif. Donc ça correspondait bien à ma démarche. Pourquoi pas plus tard avoir une démarche plus d'entretien comme on fait là en studio pour développer le projet et continuer à parler des roches d'une autre manière encore. Mais en tout cas, là, ouais, c'était sur site. Et puis, donc j'ai rencontré Pierre Paolo Brena, conservateur à la réserve naturelle nationale de Ristola-Monviso. J'ai également rencontré Laurence Martin, qui est la fondatrice de la ferme de Tétis qui est au-dessus de Croix, du côté d'Embrun. Et donc il y a un endroit magnifique où vous pouvez observer de multiples échantillons de roches issus des Hautes-Alpes. Elle a une collection incroyable et puis elle est aussi sculptrice. Elle sculpte différentes roches et ce qui l'intéresse elle aussi c'est de sculpter des roches qui d'habitude ne sont pas utilisées en sculpture. Et donc dans sa démarche elle va sur le territoire, elle se promène et puis elle ramasse tout type de roches et puis elle en fait des créations.
Et il nous manque un acteur, non? On a parlé donc, de la ferme de Tétis, de Pierre Paolo et...
Tout à fait, il y a aussi également donc, Julia Godefroy qui travaille au service de l'ONF à Gap dans le secteur de la restauration des territoires de montagne. Et donc elle est originaire du Kera et donc elle a été super intéressée pour participer au projet et participer à vulgariser tout ce qui est en lien avec la géologie. Elle est géologue et également géomorphologue. Et donc on s'est donné rendez-vous à la Casse Déserte, qui est un lieu géologique très intéressant et très particulier. On parle souvent de paysage lunaire quand on parle de la Casse Déserte. Et donc elle est venue m'expliquer, me décrire, me raconter l'histoire de ce lieu et pourquoi on voyait telle roche, pourquoi la vallée était creusée comme ci, comme ça. Enfin voilà, c'est super intéressant et moi je vous invite à écouter informations, ces données par rapport à la géologie qui sont très, très, très intéressantes et qui sont très, très en nombre. Quoi. On peut pas, enfin, c'est un puits sans fond et C'est magnifique.
Oui, c'est assez intense et dense comme entretien. On apprend plein de choses. On imagine aussi, parce qu'à chaque fois, tu les as rencontrés sur un site, avec justement une forme géologique à observer en même temps que vous en parliez.
Oui, tout à fait. Peut-être, c'était un peu moins évident pour la ferme de Tétis, mais on avait toute la ferme devant nous, avec tous les exemples de roches. Et puis on a beaucoup parlé donc, du territoire juste avoisinant, qui est le territoire de Boscodon, donc avec le plus grand cône de déjection, il me semble, de France. En tout cas, voilà, c'est un très grand élément géologique important. Et puis tout plein d'autres éléments autour. Donc oui, on a parlé du territoire sur le territoire.
Alors j'aimerais qu'on écoute un extrait. C'est un extrait avec Julia Godefroy, dont tu parlais, donc de l'ONF.
La particularité de la case déserte, c'est quand même ses carnioles. Les carnioles, c'est ce qui forme les grands affleurements rocheux qu'on peut voir au-dessus de la route. Ce sont des roches qui sont très anciennes, donc elles datent du Trias, donc c'est entre 250 millions d'années et 200 millions d'années. C'était bien avant que la chaîne alpine, comme on la connaît, là, que tout le massif du Kérail il existe. C'était une époque où en fait il faisait très chaud. On avait un climat qui était très chaud et très humide. Et c'était plutôt une plaine, on va dire, ici. Donc c'était des endroits où il y avait des petites étendues d'eau qui étaient très très chaudes. Et en fait, dans ces étendues d'eau, se sont formées des roches qui sont à la fois de la dolomie. Donc la dolomie, c'est des roches sédimentaires. Donc c'est les petits coquillages qui sédimentent et du coup qui forment de la dolomie. C'est très similaire au calcaire, sauf que pour la petite info, dans les dolomies, on a un élément chimique qui est en plus, c'est du magnésium. Ce qu'il n'y a pas dans les grandes falaises calcaires qu'on peut avoir par exemple à l'entrée des gorges, ou même dans les gorges du Guil. Là pour le coup, la dolomie, elle s'est formée dans des étendues d'eau qui étaient très chaudes, pas très profondes. Et à côté de ça, c'est formé du gypse. Donc le gypse, c'est comme le sel, c'est une roche évaporitique qui se forme du coup par évaporation de l'eau, qui contient du sulfate. Et en fait, le fait d'avoir ces deux roches à proximité, donc une fois que toute l'histoire de l'océan alpin, de la surélection des montagnes alpines, etc. s'est produite, et il se trouve que lorsqu'il pleut sur le gypse, l'eau qui ruisselle, elle va se charger en sulfate, et en fait cette eau sulfatée, elle va venir attaquer la dolomie. Et en fait, c'est ce qui va rendre l'aspect de la carniole, une roche qui est très poreuse, qui se délite facilement, qui est très friable, très érodable, et qui forme des gros piliers ruiniformes, là, comme on peut voir à la case déserte. Donc c'est vraiment les paysages lunaires, comme on appelle ça à la case déserte, typiques de l'érosion de la carniole. Ce qui est intéressant à la case déserte, c'est que donc, ces roches qui sont datées de 250 millions d'années à 200 millions d'années, en fait, elles se trouvent au-dessus de roches qui sont plus jeunes. Parce qu'en fait, toute la chaîne du roche brune, tout le massif, en fait, c'est ce qu'on appelle une plaque chevauchante ou une nappe de charriage pour certains. C'est justement ce gypse qui a servi de lubrifiant, de couche savon. Et donc en fait, on a de grandes couches de dolomie du Trias qui sont passées par-dessus plein de roches qui étaient beaucoup plus jeunes. En fait, c'est lorsqu'il y a eu la collision alpine. Donc vraiment que les deux plaques continentales, lors de la fermeture de l'océan alpin, se sont rencontrées, la plaque plutôt africaine et la plaque européenne. Ça a créé une surélection, et ce phénomène de poussée entre les deux plaques, ça a permis à certaines entités géologiques, on va dire, de glisser les unes sur les autres, alors par des jeux de fractures, de failles, et aussi grâce à cette lubrification par le gypse. On a des grands ensembles qui sont montés les uns sur les autres. Toute la nappe du roche brune, c'est un cas typique de nappe de charriage. Et donc ça explique pourquoi on a des roches beaucoup plus vieilles qui sont sous des roches qui sont plus jeunes.
Alors voilà, c'était un extrait donc de l'entretien avec Julia Godefroy de l'ONF. Donc on entend effectivement que c'est à la fois assez technique, mais en même temps on comprend vraiment ce qu'elle veut dire. Il y a aussi beaucoup d'explications autour et on essaye d'imaginer en écoutant. C'est pas toujours évident parce que c'est pas toujours des milieux géologiques dont on a l'habitude. Surtout on imagine, là on a entendu jusqu'à Marseille. Comment t'as mené ce choix dans le montage de ce que tu voulais transmettre aux auditeurs et auditrices?
Ah oui, ça a été un très grand travail de déruchage, de montage et de mixage parce que J'allais sur place rencontrer les professionnels de la roche et souvent je repartais des fois avec 2-3 heures d'entretien.
Ah oui.
Donc il y a eu un gros travail là-dessus voilà, pour trier effectivement les informations. Alors des fois j'avais des informations qui se recoupaient entre un intervenant et une autre. Du coup j'ai choisi de garder plutôt l'un que l'autre par exemple. Et j'essaie de faire des entretiens, enfin de découper les entretiens de manière à ce que il y a une thématique pour chaque entretien. Donc là on était sur la case déserte et ça un peu sa description de comment ça s'est formé tout ça. Et puis il va y avoir d'autres par exemple avec Laurence Martin de la ferme de Tétis, on a toute une explication des différentes roches. Et donc, il y a un entretien sur la roche sédimentaire, sur la roche métamorphique, la roche magmatique, voilà.
Même toi, tu dois réviser.
Ouais, beaucoup de vocabulaire spécifique que je ne connaissais pas, et que, voilà, faut retenir, mais moi, c'est pas du tout mon domaine, donc effectivement, j'ai appris plein de choses. Donc voilà, donc là, j'ai découpé pour de sorte à ce qu'on puisse écouter soit l'une, l'autre, ou les trois à la suite, si on est passionné. Oui. Voilà.
Et qu'on arrive à retenir tout ça en une fois. Et c'est sympa même à réécouter. À chaque fois qu'on réécoute, on réapprend quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui ne nous a pas marqué la première fois, mais qui va marquer la deuxième. Alors, je propose qu'on fasse une petite pause musicale maintenant. C'était toi, Aline, qui avais choisi d'écouter Light Luxury. Est-ce que tu veux nous parler de cette musique que tu as choisie?
Oui, c'est une musique donc de Aisha Devi, qui est une compositrice suisse d'origine népalaise. Et j'aime beaucoup son approche, elle a une approche assez spirituelle et mystique. C'est une musique électronique expérimentale et elle utilise pas mal sa voix aussi. Et moi j'adore son album donc DNA dans lequel on peut retrouver donc, la track Light Luxury qu'on va écouter tout de suite.
I'm
Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
C'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et nous sommes aujourd'hui avec donc Aline Claire, designer sonore et compositrice, pour nous parler de son projet Résonance Rocheuse qui sera diffusé, enfin une partie de ce projet sera diffusée sur Fréquence Mistral Briançon. La partie dont nous avons parlé dans cette émission jusqu'ici, la partie des entretiens avec des géologues et passionnés de roches. Et il y a une deuxième partie à ce projet qui est la performance. La performance sonore, évidemment, on reste dans le son. De quoi s'agit-il, Aline ? Tu as enregistré, tu disais, des sons de montagnes, de roches.
Oui, tout à fait. Donc, toujours avec ce micro dont je vous parlais tout à l'heure, le Géophone, qui est un micro en fait en forme de pic qui peut rejoindre un peu ce qu'utilisent les séismologues, enfin voilà, toute cette partie d'études de la géologie, de la terre et de la roche. Et donc, voilà, c'est un micro qui a un pic qu'on vient planter dans le sol et qui va venir enregistrer et capter les sons qui émanent de la roche. Donc, par exemple, si y a un caillou qui tombe à côté, on va entendre les vibrations via la roche qui vont être captées par le micro. Et donc, ensuite, moi, je vais enregistrer tout ça. Et donc, je suis allée sur le territoire du Queyras et des Hautes-Alpes enregistrer sur différents sols, types de roches, des sons pour ensuite en créer une performance. Je suis allée aussi bien donc, au pic de Château-Renard, par exemple, qu'au Pas de l'Ours ou encore à la Casse Déserte pour enregistrer voilà, différents sons. Et comme je savais que le but était de venir performer pour la journée inaugurale du projet épilogue à Château-Queyras, et ben j'ai parcouru le territoire, enregistré ces sons et après je les ai travaillés, sculptés, modifiés, transformés. Des fois ils sont reconnaissables et des fois pas du tout pour aboutir à une performance live qui a été voilà pour la clôture de la journée inaugurale, enfin le moment performatif de cette journée inaugurale du 28 juin dernier.
Alors, j'ai plein de questions. La première, c'est les sons des roches que tu enregistres. Donc, c'est les sons de mouvement de roches ?
Alors, c'est dû au mouvement qu'il y a autour, en fait. S'il ne se passe rien, je ne vais rien capter. Mais si, voilà, il y a des mouvements, des éléments qui vont bouger. Donc, comme je disais, un caillou qui tombe, ça peut être une voiture qui passe au loin, ça peut être quelqu'un qui passe courir. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait des éléments qui se passe autour pour que ça vienne activer en fait le transfert des ondes via la roche et que moi je vienne les capter par le micro. Et c'est un micro qui capte les ondes, enfin les fréquences de 10 à 1000 Hz, donc c'est des fréquences assez basses et en fait c'est les fréquences que transmettent la roche.
C'est ce qui résonne dans la roche en fait.
Ouais, c'est ce qui émane de la roche.
Émane de la roche, mais un son extérieur peut-être qui va. Ok.
Ouais.
D'accord, c'était ma première question. Ensuite, tu disais que dans cet événement avec Bienvenue là-haut, épilogue, tu as proposé cette performance. Comment se présentait-elle ? C'était. Comme un podcast, on mettait un casque, on écoutait comment ça se présentait.
Alors du coup, non, c'était pas tout à fait comme ça. Enfin, pas du tout même. C'était comme quand on va à un concert, en fait. On vient pour voir un groupe, un duo, une artiste qu'on aime bien. Et donc là, moi, j'avais une table avec tous mes outils de sonore, enfin mes instruments. Aussi bien électronique, pour le coup ils étaient tous électroniques, analogiques ou modulaires, et j'avais également le micro qui était planté dans le sol pour venir l'activer, pour expliquer aussi à la fin comment j'ai procédé pour cette performance, cette création. Et donc moi j'avais mon bureau avec mes outils, mon ordinateur qui m'aide, que j'utilise aussi pour performer, pour créer. Et puis j'avais préparé donc plein de matières sonores différentes, donc issues de ces enregistrements de roche. Et j'avais voilà, pensé un déroulé en amont de comment je voulais, quels sons, à quel moment, pourquoi, enfin, avec quels effets. Et donc je suis venue activer tous ces sons-là. Donc c'est du live en fait.
Oui. Comme du mixage sonore en direct, prestation de mix, sauf que là tu mixes avec des sons que tu as préenregistrés.
Oui, et puis que je crée moi-même également. Oui. C'est vraiment.
Oui. C'est pas du mix avec de l'existant, enfin c'est de l'existant mais que toi tu as créé avant.
Oui, et puis il y a toujours des éléments qui sont vraiment du direct live, hein, qui, ça peut être avec un micro et qui du coup capte quelque chose à un moment, à ce moment-là, qui du coup est rediffusé en même temps. Enfin voilà, c'est, y a ce côté vraiment live qui est présent. Mmh. Et donc les gens écoutaient autour, il y avait un système, une double stéréo pour être bien imprégné du son, et donc les gens étaient au milieu des enceintes et voilà, et écouter un peu, ça peut... moi, je parle souvent de voyage sonore où quand je présente au début de chaque performance, j'aime bien dire, je vous invite à fermer les yeux et ouvrir grand vos oreilles, voilà, pour inviter au voyage.
Mmh, d'accord. Et ça se présente comme une musique ou vraiment comme une immersion? C'est pas forcément ce qu'on pourrait qualifier de musique.
Si, c'est, moi, ça fait partie de... C'est de la musique expérimentale, électronique expérimentale. C'est comme ça que je le définis, que je le conçois, mais qui est jouée en live, du coup, qui est une performance sonore. Mmh. Voilà.
Est-ce que tu as eu des retours du public? Parce que, juste, pardon, pour cet événement, il y avait aussi les entretiens qui étaient accessibles, écoutables?
Oui, c'est ça. En fait, les entretiens étaient dans une partie du château exposée. En fait, il y avait différents artistes invités pour cet événement. Et pour le temps de l'exposition, qui a duré plusieurs jours. Et donc, les entretiens étaient sous forme d'installations sonores. Et donc, on pouvait passer, visiter le château et s'installer, et écouter les entretiens dans un coin du château, dans une petite alcôve, des coussins, des casques. Et puis, il y avait une installation. Donc, c'était une boîte par intervenant, enfin, par personne interviewée. Et donc, chaque boîte avait deux casques qui pouvaient être... pris pour écouter, quoi. Mmh. sur place.
Et tu as pu avoir un échange avec le public dans cet événement?
Oui, globalement, ils étaient assez intéressés et intrigués et très curieux, en fait, de toutes ces informations en lien avec la géologie du territoire. Il y a pas mal de gens qui habitent le territoire, mais qui ne s'intéressent pas forcément à sur quoi il ou elle marche, ou ce qu'on peut voir depuis notre fenêtre. Et donc, c'était, je pense, une belle découverte.
Mmh. Et il y a un futur à ce projet, d'autres performances, d'autres installations?
J'aimerais beaucoup. Donc, j'en profite pour passer une petite annonce. Que si vous nous entendez aujourd'hui et que vous souhaitez... réactiver le projet, moi je suis toute je suis ouverte à revenir, enfin à venir installer l'installation où que ce soit, ou même enfin rejouer la performance pour partager ce travail qui a été effectué donc pour l'événement de juin, mais qui est tout à fait réactivable par la suite. En tout cas, les éléments sont là et voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas.
Et où est-ce qu'on peut te contacter?
Via mon Bandcamp, par exemple, vous pouvez m'envoyer, il y a un formulaire de contact, vous pouvez m'envoyer un mail. Enfin, via ce formulaire, ça m'envoie un mail. Et donc, mon Bandcamp, vous tapez Bandcamp, Aline Claire, donc C-L-A-I-R, mon nom. Et puis voilà, vous me trouverez là.
Et donc ça, c'est pour ce projet-là. On a dans ce projet-là aussi ces podcasts, ces entretiens qui sont disponibles, donc qui seront disponibles sur Fréquence Mistral en replay suite à chaque diffusion, mais aussi sur l'audioblog de Arte, c'est ça?
Oui, voilà, bienvenue là-haut les amis sur les audioblogs d'Arte Radio, donc on peut les écouter là aussi.
D'accord, à d'autres endroits ou c'est principalement là?
Non, c'est principalement là, et puis dans un futur plus ou moins proche, la performance sera disponible en ligne aussi sur mon Bandcamp, mais d'abord j'aimerais bien qu'elle voyage un peu, qu'elle puisse être jouée ou rejouée pour différents événements, pour promouvoir la géologie du territoire.
Et d'autres projets?
Par exemple, avec une collègue voisine, on a un projet de duo musical. Toutes les deux, on est musiciennes et on aimerait développer un projet autour du territoire en utilisant le field recording, donc ce qui est de l'enregistrement de terrain, avec nos instruments respectifs qui sont pour elle la contrebasse et pour moi le violoncelle, et puis tous les outils électroniques qu'on aime utiliser, donc les synthétiseurs analogiques, modulaires ou numériques. Et donc c'est un projet pour lequel on a répondu à beaucoup d'appels à projets, de demandes de subventions. Pour l'instant, on n'a pas eu de sélection, on a seulement passé quelques présélections. Donc en tout cas, on cherche des lieux de création, de résidence et des subventions pour ce projet, et qui est en développement.
Donc, il n'y a pas encore de date pour l'instant?
Eh bien non, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'éléments créés. On répète de manière artisanale chez nous quand on peut. Mais voilà, on est en recherche de subventions et de lieux de création pour nous accueillir en résidence pour pouvoir avoir un temps de travail qui est nécessaire pour créer un premier set qui sera également pour promouvoir le territoire et aussi parler de tout ce qui est paysage sonore et le documenter, parce qu'en fait on est dans un paysage qui est, enfin dans un territoire qui est très intéressant au point de vue du paysage, mais qui est aussi très impacté par les changements climatiques, l'activité humaine, et donc on aimerait travailler sur la documentation de ce paysage, donc de manière sonore puisque c'est notre médium, pour l'inclure dans notre création.
Et comment parler d'un paysage par du son comme ça, sans entretien? Là c'est un projet où il n'y a pas de parole du tout.
Non, pas de parole. Enfin, il pourrait y en avoir si on choisit, par exemple, il y a une figure emblématique d'un village du territoire qu'on aimerait interviewer et inclure. Donc ça, c'est pas exclu, en tout cas. Mais comment parler du territoire? Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enregistrer tel qu'il est actuellement pour témoigner de son état actuel. Donc ça peut être, moi quand je vais en randonnée, je prends mes micros par exemple donc on va entendre des oiseaux, des animaux, peut-être de l'activité humaine au loin, toujours des avions, des hélicoptères qui passent parce qu'il y en a de partout. Donc voilà, et puis après ça va être aussi par exemple un écho spécifique lié à telle structure rocheuse, ce qui fait que voilà, on a un super écho de tel objet sonore qui vient... juste d'être émis.
On se disait que vous alliez diffuser sur Fréquence Mistral les entretiens. Donc je le rappelle, c'est Résonance Rocheuse sur Fréquence Mistral Briançon, sur nos ondes 96.6 à Briançon, les lundis à 18h et en replay sur le site internet pour celles et ceux qui sont ailleurs et qui voudraient écouter ces productions, et également donc sur le blog Arte Radio.
Ouais.
On tape quoi d'ailleurs? Résonance Rocheuse?
Oui, audioblog Résonance Rocheuse, tout à fait.
D'accord, tout simplement. J'aurais juste une toute dernière question, on arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez appris de ce projet? Qu'est-ce que vous en retenez? Je ne sais pas pourquoi vous, tu.
J'en retiens que la géologie est vraiment un univers très vaste, qui a plein d'éléments à savoir. Enfin, à découvrir, connaître, tout ça. Et que qu'on ne sait jamais vraiment sur quoi on marche, mais qu'en fait, heureusement que c'est là aussi pour nous porter, entre guillemets, si on peut faire un peu de poésie. Et qu'il y a vraiment une multitude de roches avec des couleurs incroyables. Puis des fois, des choses... folle, où il y a des masses rocheuses qui passent au-dessus d'autres masses rocheuses. Enfin, vraiment, savoir que aussi ici, c'était tout un océan avant. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments et c'est fou, quoi. Tous ces éléments de géologie.
Ça a changé ton regard sur le paysage ici, tu penses?
Bah, des fois, j'aime bien regarder la roche et justement me demander qu'est-ce que ça pourrait être, mais il me faudrait beaucoup plus de temps pour étudier. Et pouvoir reconnaître, et même je sais que des fois quand on est géologue ou géomorphologue on peut pas connaître toutes les roches, donc c'est un très long travail. Je suis pas sûre que je pourrais le faire un jour, mais en tout cas voilà, il y a des belles roches.
Peut-être un mot de la fin pour avant de clôturer cette émission et d'écouter une dernière musique avant de se quitter.
Oui, bah tout à fait. Bah merci pour l'invitation pour
avec grand plaisir.
Cette émission. Et puis je voulais remercier également Romain Barré de Bienvenue là-haut qui m'a permis de réaliser donc ce projet Résonance Rocheuse, et également en partenariat avec les propriétaires du château Kera, donc Anne Lorven et Nicolas Chabran, pour nous avoir permis d'exposer au château nos créations.
Est-ce que tu penses que tu vas vouloir faire d'autres entretiens avec d'autres personnes?
Eh ben pourquoi pas. En tout cas, je suis ouverte à cette proposition aussi et développer. Cette branche-là, ce podcast. Je sais que Julia aussi est très partante pour vulgariser tout ce qui est en lien avec la géologie, donc à voir quelle forme ça pourrait prendre. Pour l'instant, je suis sur d'autres projets dans les mois proches, mais en tout cas, prochainement, un peu plus lointainement, pourquoi pas.
Eh bien, merci Aline Claire. On va se quitter sur une musique que tu as choisie, une musique qui fait écho aussi toi à ton travail, donc de Jana Irmert. Alors je te laisse la présenter, tu le présenteras bien mieux que moi.
Oui, qui est donc Jana Irmert, qui est une artiste basée à Berlin. Et j'aime beaucoup en fait les matières qu'elle utilise pour composer, et ce sont des matières que j'utilise aussi. C'est ce qui va être tout ce qui est field recording, donc enregistrement de terrain, de la voix et du synthé. Donc c'est vraiment les matières voilà, que j'aime entremêler pour créer. Donc voilà une de ces compositions qui s'appelle The Soft Beat.
Eh bien, on va écouter un extrait et on se quittera là-dessus. Merci Aline Claire.
Merci à toi.
Et merci auditeurs et auditrices. On vous laisse sur cette musique et belle journée à toutes et tous.